le rendez-vous des amateurs de sport. Avec Michel Tifo et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire. Dans le
vestiaire. Les Rangers du Texas sont champions de la Série mondiale. On va en parler amplement dans l'émission. Et d'autres choses avant, Dominique Bolduc, bonjour!
Salut Michel!
On a des bons vieux parents, s'ils sont vivants, on les protège. Dominique, tes parents vivent encore?
Oui.
Bon, on les protège, nos parents. On a des enfants, on les protège. La vie d'un enfant, ça vaut combien? Ça vaut une fortune. Un joueur de hockey de la Ligue nationale de hockey, minimum, première saison, il vaut 900 000. Il y en a qui valent 10 millions, puis 11, puis 12 millions. Le commissaire de la Ligue, je reviens à ce que je disais hier, tu vas me dire je suis fatiguant, là. Dominique, le commissaire de la Ligue nationale de hockey doit... je te donne l'exemple de protéger tes parents puis protéger tes enfants. Il doit protéger ses employés. En 1950, il n'y avait pas de casque protecteur. Quand le casque protecteur est inventé, Jean-Claude Tremblay en a porté un. Puis Bobby Rousseau en a porté un. Puis Guy Lafleur, ça a pris du temps, mais il en a porté un. Puis Larry Robinson,
il l'a enlevé.
Il l'a enlevé, mais il en a porté un. À la fin, là, on est obligé d'avoir d'avoir un casque protecteur.
Puis c'est pas juste ça, on a ajouté la demi-visière. La demi-visière est obligatoire.
Il vient d'avoir une victime, heureusement. Ben, c'est pas dans la Ligue nationale, mais c'est un ancien joueur de la Ligue nationale. Il y a eu une victime en Angleterre. C'est un accident qui pourrait arriver encore, là. C'est arrivé à Clint Mullerchuk, puis c'est arrivé à ce gars-là, l'ancien des Penguins de Pittsburgh. Comme commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman doit protéger ses employés. Il devrait exiger le port du cache-cou, du protège-cou, le plus vite possible. Suis-tu d'un patate?
Je suis d'accord avec toi, mais il le fera pas. Ça va se faire dans la prochaine convention.
Il attend qu'il en meure sa glace?
Ça va être dans la prochaine convention. Parce que lui, quand même, qu'il l'impose, là, les joueurs vont dire non. Moi, j'ai pas question, j'en porte.
C'est qui le boss?
Ça doit être lui le boss. Ouais. C'est qui le boss? C'est les joueurs.
Faut qu'ils convainquent.
Parce qu'il a des millions.
C'est de la négociation.
Ouais, ben ça va être négocié dans la prochaine convention collective, Michel. C'est plate à dire, mais okay. Ça va être ça.
C'est plate en mots, t'as dit.
Ouais.
Que le vrai Jason Demers se lève. Il y en a combien des Jason Demers qui savent jouer au hockey? Il y en a un Jason Demers qui a joué dans la Ligue nationale de hockey. Mais les pétroliers de Laval se sont fait flouer comme des bébés, comme des enfants. Je leur donnerai pas mon portefeuille. Ils n'ont jamais rencontré le Jason Demers en question. D'abord, c'était pas le bon.
Non.
D'abord, il y a plein de mensonges dans ça. Là, ils nous ont donné une version aujourd'hui. On n'a pas parlé avec le bon Jason Demers. Mais c'est donc ben enfantin.
On va te le dire, j'ai de la misère avec ça. Là.
Non, c'est moi aussi, j'ai de la misère.
J'ai bien la misère.
Il y a des mensonges. On ne dit pas la vérité. Ça manque de crédibilité. Puis même si c'était le vrai Jason Demers, tu signes un contrat avec un joueur de hockey, tu signes un contrat avec un employé, première des choses, tu le rencontres en personne. Oh oui, mon signe est bon, mais un signe est bon, Christ, c'était même pas le bon!
Ça veut dire qu'ils n'ont même pas parlé à vive voix, là. Ça s'est fait par texto,
par
email,
texto.
Ça s'est fait par écrit. Tu négocies pas un contrat.
Ça manque-tu de sérieux?
La plus belle affaire qui pourrait arriver là, pour les pétroliers de Laval, moi, vous le dire, moi, ce serait qu'une autre équipe, comme par exemple les Marquis de Jonquière, annonce la signature.
Mettons
Thetford.
Allons-y, enlevons notre partisanerie. Là.
Il annonce la signature du vrai Jason Demers. Ça veut dire aux pétroliers, qu'un, nous autres, on a fait notre job comme du monde.
Puis avec une photo.
Avec une photo.
Il est là, côté de nous. Là, il annonce la signature de Jason Demers. Moi, être le propriétaire des pétroliers de Laval, je suis à la photo avec Jason Demers. Puis le coach. Mais on négociait ça par texto.
Il y a un gros manque de sérieux.
Selon eux autres, c'était pas le vrai Jason Demers. Ils s'en sont bien fait.
Qui se prend pour Jason Demers dans la vie? Sacrement, c'est pas le plus grand des joueurs. Je suis sûrement qu'il n'y a pas quelqu'un. Moi, là, je suis Sidney Crosby, puis quand je parle au monde, Sidney Crosby. Voyons donc, Jason Demers.
Dominique, combien de gens ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, se sont fait flouer par Internet par des gens de l'Afrique.
Oui.
Levez votre main.
Mais ils ne portaient pas lever votre main. Noms de personnes connues,
non,
par exemple.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est du flouage. C'est des mensonges. C'est aller chercher de l'argent. Là, évidemment, dans le cas de Jésus de Mer, c'est pas pareil. Là. Mais combien de gens se font pincer, se font attraper par Internet?
Ah, il y en a. Sauf que moi...
Si tu vois pas personne, tu y envoies de l'argent. Tu vois pas Jason Demers, tu signes un contrat avec lui, tu sais même pas si c'est le bon.
Mais moi, je te dis, je ne crois pas à la version des pétroles.
Non, moi non plus. Je pense que c'est des mensonges dans ça.
Qui nous montre des preuves. Mais je crois pas.
Et que ça enlève de la crédibilité. D'abord à l'équipe, comme ça se peut pas.
Ah, à l'équipe.
Moi, les pétroliers de Laval, à partir d'aujourd'hui, là, c'est qui le président? C'est... Oh, il est Lucien, il est dans ça encore.
Ben oui. C'est lui qui signe le contrat.
Oh boy.
Avec Pierre Pelletier.
Pierre Pelletier, c'est un gars qui a de l'expérience.
Ouais.
OK, les Rangers du Texas sont champions. Ils l'ont démontré hier. Ils ont bien joué. C'était plus fort que l'autre équipe. Ça s'est joué en 5. On a discuté tantôt avec Michel Bureau. Ça fait 62 ans qu'il n'avait pas gagné au Texas. 62 ans, c'est long, tabarouette. Toronto fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné dans la Ligue nationale? C'est en 67.
56.
C'est en 67 la dernière fois, avec Dave Keon, puis George Armstrong, puis...
56 bientôt, 57 ans.
C'est long.
Ouais, c'est long. Puis, du côté des Rangers, bien, ils ont réussi à passer à travers tout le monde, et surtout sur la route. C'est ça qui est quand même spécial, là. Leur parcours de 11 victoires de suite à l'étranger, c'est un record des Ligues majeures en série. La plus longue séquence de gains dans l'histoire également, la plus longue séquence de gains sur la route dans l'histoire de l'organisation. Hier, c'était bien parti pour les Diamondbacks parce que les Rangers n'avaient aucun coup sûr après 6 manches. En 7e, ça a débloqué.
Ça s'est gâté,
Ça s'est gâté. Et c'est ça qui... On peut confirmer, en fait, si on avait une chose à dire sur la victoire des Rangers en série, c'est une grosse manche.
Ouais.
Une grosse manche par match, puis ça a été suffisant pour gagner, puis c'est ce qu'ils ont fait. Ça pouvait arriver en début de rencontre, ça pouvait arriver en fin de rencontre, mais c'est ce qui est arrivé. Et ben bravo aux Rangers. Les Diamondbacks, à la base, ne devaient pas être là. Se sont quand même rendus là. Bravo aux Diamondbacks. Ce sera pour une autre année.
Corey Seager, joueur des séries, c'est la deuxième fois qu'il gagne le titre.
Ouais, ben
la dernière fois que c'est arrivé, c'était M. October.
Oui.
Tu sais qui est M. October?
Oui, absolument.
Pas avec les Aces d'Oakland, c'était avec les Yankees qu'on l'avait surnommé M. October,
ouais.
Reggie Jackson.
Oui, exactement. Mais il avait gagné un championnat avec les Yankees, avec les Aces.
Avec les Aces,
en donc, lui, il a gagné avec deux équipes différentes, tout comme Corey Seager. Ce sont les deux seuls à avoir remporté un titre des séries avec deux équipes différentes.
L'année des moustaches. Les Aces d'Oakland, tous les joueurs ont porté la moustache. Ouais. Et bien, November, eux autres, là, ils ont inventé ça bien avant que ça arrive. Et puis, Bruce Bucci, on va en parler tantôt avec Michel
Lui, il était à la retraite. Hein?
Ouais,
il est sorti de sa retraite. Il était à Nashville, profitait de la vie, rendu à 68 ans. Attends, il m'a sorti de la retraite. Je m'en vais avec les Rangers, puis je vais aller gagner. Il avait gagné, lui, c'est son 4e titre. Lui, il avait gagné les 3 titres avec les Giants de San Francisco en 2010, 2012 et 2014, et donc 2010 contre les Rangers du Texas. Alors, lui, c'est un 4e titre pour le gérant Bruce Bochy.
Dominique, peux-tu me confirmer, s'il vous plaît, qui est le gardien de but ce soir pour le Canadien?
Je ne sais pas.
Bon, ce matin, on disait que ça se peut que ce soit Primo. Et je reviens
à ce que... Ça s'approche de plus en plus à ça, je te dis.
Là, je t'explique. C'est mon commentaire, c'est mon opinion, ça vaut ce que ça vaut. On envoie Primo dans le net. D'abord, à Primo, il n'est pas hot actuellement. Les deux qui sont hot, c'est Motambo et Allen.
On ne peut pas dire qu'il n'est pas hot. Il y a un départ.
Non, mais écoute ce que je veux te dire. Tu envoies Primo dans le net ce soir, tu te fais battre. Tu arrives à la fin de l'année, il te manque 2 points. Parce que Primo, il n'y a rien prouvé encore. Motambo, il est bon depuis 2-3 games, puis Allen également. Tu arrives à la fin de l'année, il te manque 1 point ou 2 pour les séries. Là, tu dis le 2 novembre. Pourquoi il avait embarqué Primo dans le net? Pourquoi? Pourquoi?
Ils ont eu l'idée de faire un ménage à trois. Peur de le perdre au ballottage. Puis c'est ce qui va arriver.
Ben oui, mais pourquoi ils l'ont pas mis au ballottage hier, à matin? Primo n'a pas d'affaires devant le filet.
Ben, je veux dire, à matin. Pourquoi ils l'ont pas mis en début de saison?
Ouais, mais quoi?
T'as pas d'affaires à commencer la saison 3 goalers.
Je vais t'expliquer pourquoi ils l'ont pas mis au début de saison. C'est qu'on savait pas trop Motambo et Allen. Tu sais, on se disait, ils vont-tu être bons? Il y en a-tu un des deux qui va flancher? Les deux, tu sais, tire leur épingle du jeu après 10 games. Primo n'a pas d'affaires là, Dominique, je te le dis. Et si jamais...
Ah, c'est-tu pas avec moi, je le sais.
Non, mais c'est pas pour les auditeurs qui nous écoutent, là. je te le dis, si à la fin de la saison, il manque un point ou deux, puis si Canadien perd ce soir avec Primo, je le ressors, là. 2 novembre 2023, t'as embarqué Primo dans le net, ça n'a pas de rapport. Pour tout le respect que je dois à Martin Saint-Louis, c'est lui qui prend la décision du goaler à ce soir. C'est pas Kent Hughes, là. C'est Martin Saint-Louis. Martin, pense-y comme il faut. Ces deux points-là sont importants. Parce qu'ils n'ont pas un mauvais début de saison. Là, au moment où on se parle, après 9-10 games, là...
Canadien, c'est une des surprises.
Ils font
un très bon début de saison.
Là, tu vas me dire, Dominique, au mois de février, on verra. Oui, d'accord
avec
toi.
Mais, tu sais, ce qu'ils gagnent là, ils l'ont pas perdu.
Ce qu'ils gagnent là, et je te le dis, les deux...
Comme les Canucks dans Vancouver, ils ont un très bon début de saison. Ils surprennent, là. Il y a des équipes qui surprennent dans ce début de saison, puis il y a des équipes qui déçoivent. Mais Canadien, en ce moment, là... Si ça continue comme ça, si l'équipe reste en santé, moi, mon joueur, c'est Sean Monahan. Monahan, là, est le jeune, est général en avant. Avec Suzuki, là, tu sais, Suzuki ne peut pas tout faire tout seul. Avec Monahan, si Monahan reste en santé, crime, pour moi, les Canadiens ont des chances.
Ben, moi, c'est Goulet et Matheson. Goulet et Matheson, là, il m'impressionne.
Extraordinaire.
Matheson, je le trouve bon, Matheson.
Tu sais, oui, on a perdu Kirby Dack, puis la profondeur fait quand même le travail. On dit que ce soir, peut-être, là... Ilonen, c'est-tu Ilonen, je crois, puis Harris vont sauter leur tour. Il y a d'autres joueurs qui vont jouer. Mais c'est ça qui est le fun en ce moment. T'as une bonne profondeur. Puis après ça, ben, t'auras une décision à prendre sur Slavkovski.
Ouais, mais ça, mais en tout cas, moi, la décision, c'est primo. Les Saguenay ont gagné hier. Ils mènent 1-0. Il y a une punition en fin de première période. Puis après ça, il y a une punition majeure. Hey, j'ai dit, là, ils viennent de perdre la game. Ils n'ont pas donné de but, puis en plus de ne pas donner de but, ils n'ont score rien. Ils ont gagné 5-1. Bravo aux Sags. Il y a quelqu'un au téléphone. Dans le vestiaire, bonjour.
Bonjour, ça va bien, les gars?
Ça va bien, monsieur.
Oui, c'est juste pour dire, je sais pas ce que ça laisse comme message. Le coaching staff, au deuxième étage aussi, trois gardiens. Ça veut-tu dire qu'à quelque part, qu'on sait pas vraiment c'est qui le numéro un?
Ben, en ce moment, je pense que chez le Canadien, il n'y a pas de numéro 1. On le voit avec la manière que...
Souvent, ils disent qu'il y a deux numéros 2.
Mais monsieur, la question n'est pas là. La question n'est pas de savoir s'il y a un numéro 1 ou un numéro 2. La question est de savoir enlever Primo de là. Il n'y a pas d'affaire devant le but à soir.
Malgré la défaite, quand tu as gardé les buts la dernière fois, il a fait...
Ben, il n'est pas blâmé pour la défaite. Ça,
d'accord, mais il n'y a pas d'affaire. Les deux autres... Monsieur... Motambo a besoin de glace. Motambo a besoin de glace, puis Allen, mais... Ben,
avant le début de la saison, avec la saison qu'il a connue l'année passée, puis le championnat qu'il a gagné, dans ma tête, à moi, c'était Motambo numéro 1.
Ben oui, absolument. Je suis d'accord avec vous.
Numéro 2. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que le staff, puis comme je disais tantôt, deuxième étage...
A pas assez confiance.
Ben, vous posez une question, monsieur, puis Dominique. Admettons que le Canadien gagne, admettons que je me trompe, là. Puis Primo, il engoule une tabarnouche, puis il fait un blanchisseur, ben donne un... Mais il engoule une maudite.
Il est encore plus mêlé.
Là, on va être mêlé en tabarnouche, là. Là, il va être mêlé, mais
le
pas...
Le ménage à trois va se poursuivre.
Mais j'espère que ça ne durera pas toute la saison.
J'espère que non, parce que tu peux pas espérer avoir une équipe compétitive avec des goalers qui ont gaulé 35, puis 20 games.
Si le staff ne sait pas c'est qui le numéro 1, ça continue comme ça toute la saison. On est en reconstruction. Normalement, une reconstruction, c'est sérieux.
Oui.
Ça veut dire qu'on a un plan, qu'on va aller à quelque part avec ça. Il va falloir qu'ils trouvent...
Alors donc, monsieur, vous êtes d'accord avec moi, Primo, on tente ça, ça presse. Sauf que s'il go... Mais s'il go bien à soir, puis il gagne.
La chose que je me dis, c'est si Primo... je pense qu'il faut qu'il passe au balotage pour retourner à Laval.
Oui, il n'y a pas le choix.
Oui, mais tiens, mettons qu'il goal bien ce soir.
Parce que de ce que j'ai entendu, il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées.
Non, mais je reviens à ce que je disais, là. S'il gagne à soir, puis mettons qu'il en goal, il en tire toute une, là. Ils peuvent pas le mettre au balotage
ben,
demain.
Ils continuent leur ménage à trois, ouais, c'est sûr.
Mais ça... Il faudrait que ça ait une fin, ça. Ça.
Oui, bien c'est ça. Ça peut pas devenir une mode, un ménage à trois.
Non,
j'ai jamais cru ça.
Ça s'est jamais vu. Écoute, j'ai 40... bon, avoir 49 ans, là, puis j'écoute le hockey depuis que j'ai 14 ans. J'ai rarement vu ça, puis quand j'ai vu ça, ça
il y a bien commencé tard.
On s'entend là-dessus.
Il y a bien commencé tard, écoutez, le gars, 14 ans.
plus de bonheur encore que ça.
Oui, ben oui, 14 ans, ça fait longtemps. Ça faisait 7-8 ans que j'écoutais le hockey. Hey, merci, monsieur.
Hey, merci, bon après-midi.
Au revoir. Le baseball avec Michel Bureau. Dans un instant, on va parler de la victoire des Rangers du Texas.
Arrêt de jeu. Retour dans le vestiaire dans quelques minutes.
y a 6 mois, je suis monté dans mon échelle pour couper une branche dans mon arbre. J'ai reçu une décharge électrique. Je suis tombé tête première. Aujourd'hui, ma femme doit m'aider à me déplacer, car je suis paralysé. Je suis incapable de parler sans cette machine. J'aimerais tellement revenir en arrière. Restez toujours à plus de 3 mètres des fils électriques.
Un message d'Hydro-Québec.
Allô, c'est Fred Point. Pour être bien informé sur quoi faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ne manquez pas ma chronique art et spectacle les mercredis 8h30 dans l'émission Réveillez-vous.
Jaser de voiture, c'est toujours le fun. Et au 92.5, notre expert, c'est Jimmy Girard, d'un dé du Saguenay. À tous les jeudis, 8h, on parle de vieilles voitures, mais aussi des véhicules du futur. Sans compter les lignes ouvertes aux auditeurs, soyez à l'affût de l'évolution automobile avec la chronique auto, en compagnie de Jimmy Girard, tous les jeudis, 8h, dans Réveillez-vous, une présentation d'un dé du Saguenay. Adhérez à plus.
Baseball.
Michel Bureau, bonjour.
Hey, bonjour les gars.
La saison de baseball est déjà terminée.
T'as eu raison, Michel, parce que quand on s'est parlé jeudi passé, on disait on va se voir la semaine prochaine, puis la série va être terminée. Crime, t'as eu raison.
Ouais, puis au début, souvenez-vous, au début de la saison, j'avais prédit que les Rangers étaient là, allaient gagner le championnat de la division et peut-être même gagner la série mondiale.
C'est fait.
Puis la série mondiale, ben, on s'est tous trompés, on avait tous dit en 7, mais les Rangers ont été surprenants, puis sur la route, là, c'est extraordinaire.
Écoute, 11 victoires consécutives, il y a eu une pluie de records, une pelletée de records dans les séries. Ça a été fort excitant, non seulement cette série mondiale, mais tout au long des séries d'après-saison. Écoute, les 11 victoires consécutives des Rangers du Texas, c'est incroyable. Les 20 matchs avec au moins un coup sûr de Ketel Marte pour les Diamondbacks d'Arizona. Ouais. 23 buts volés par les Diamondbacks dans les séries. 9 doubles pour la recrue Evan Carter. Écoute, les records, il y en a eu tout au long de ces séries. Ça a été fort excitant.
Corey Seager, c'est mérité?
C'est très mérité, Corey Seager. Et puis, vous savez que c'est la première fois que deux joueurs recrues, Evan Carter et Young, le talentueux joueur de troisième but de Rangers du Texas, remportent la série mondiale, deux recrues à leur première année dans le baseball majeur. Quand même assez extraordinaire. Et que dire aussi de Castellanos qui a frappé quand même 2 circuits dans 2 matchs consécutifs. Ça, c'est un autre record qui a été établi lors de séries. Corey Seager Corey Seager, il est impressionnant. MVP, le 2.0 Reggie Jackson. Écoute, il a été extraordinaire. Il a égalé un record de Derek Jeter pour le nombre de circuits en série. Ça a été toute une série pour Corey Seager. Il a égalé un record aussi en devenant MVP pour la 2e fois, et ça en 3 ans, record qui appartenait à Bob Gibson, un des meilleurs lanceurs dans l'histoire du baseball, le 45 des Cards de St. Louis. Sandy Koufax avait également remporté le MVP, tout comme M. Octobre, Reggie Jackson, qui a également remporté le titre de MVP 2 fois en 3 ans. Alors, quand même extraordinaire comme saison, comme série. Je pense que le fait saillant pour les Astros de Houston, pour les Rangers du Texas, mais ça a été justement de venir de l'arrière dans la série contre les Astros de Houston. Je pense que c'est là qu'on a vu que c'était une équipe qui allait remporter la série mondiale.
Et le coach Bruce Bucci devient un grand nom, tout comme Casey Stengel, Walter Alston, Joe Torre et même Connie Mack.
Écoute, on oubliait ça, mais il y a 3 ans, il fumait sa pipe, lui, là.
Il était retraité.
Pour les 3 dernières années, dans son salon, bien tranquille, devant son feu de foyer. Il a reçu un coup de fil de Chris Young, le directeur général des Rangers, pour dire hey, « Pourquoi ça te tente-tu de revenir au moins pour une autre saison? »« Bon, ben je peux bien essayer. Vous avez l'air d'avoir une équipe compétitive. Je vais courir la chance. OK, je vais y aller. Je vais y aller pour cette année. » Puis résultat, on l'a vu. Hein, très respecté des joueurs. Je ne sais pas si vous avez vu les cérémonies d'après-match, mais tous les joueurs ont fait la collade à Bruce Bocci. C'était lui le boss, Bruce Bocci. 4e série mondiale pour Bruce Bocci. Les temples de la renommée du baseball sont ouverts pour M. Bruce Bocci. Moi, je l'adore, ce gars-là. C'est un excellent entraîneur.
Est-ce que les Yankees, les Mets, les Dodgers vont comprendre que ça donne rien de payer des millions pour acheter un championnat?
J'ose espérer que oui.
Mais ça n'arrivera pas.
Mais ça prend aussi, là, les gars, les leaders des meneurs d'hommes qui ont dû coller dans le nez. T'sais, les bonnes équipes ont tout le temps eu de bons leaders, ce qui manque cruellement chez les Blue Jays de Toronto. Mais souvenez-vous, je pense, un des faits saillants aussi, ça a été
Lorsque Adolis Garcia, imaginez-vous, les Rangers ont été privés de leur meilleur joueur au cours des deux derniers matchs. Et puis, ils ont quand même gagné. Puis Garcia, souvenez-vous, lorsqu'il a été atteint d'un lancer dans la série contre les Astros de Houston, tout le monde s'est retrouvé sur le terrain. Il y a une mêlée générale. Ça a été tout un revirement aussi, dans le sens qu'on a vu que c'est une équipe qui se tient, les Rangers du Texas.
Crois-tu qu'il y a des équipes qui vont bouger au niveau des coachs, au niveau des signatures de joueurs autonomes? Qu'est-ce qui va se passer cet hiver, d'après toi?
D'après moi, les Blue Jays vont être actifs.
OK. On a besoin de quoi à part d'un coach à Toronto?
on a besoin de quoi à part d'un coach? Moi, je pense que probablement, il ne sera pas là jusqu'au match des étoiles l'an prochain. Je peux déjà vous prédire ça.
Ouais, mais à cause qu'il ne le tasse pas avant.
Ouais, ouais. C'est pour ça. Pourquoi il a donné un vote de confiance? Là, je ne comprends pas. Mais Atkins a l'air fou dans cette série mondiale-là. Hein. Trois gars, la fameuse transaction contre Dalton Varsho. Les deux gars des Blue Jays ont quand même bien fait. Si on regarde Lars Gurriel, puis que dire du receveur qui a été Gabriel Romano, qui a été excellent derrière la main pour les Diamondbacks. Imagine-toi, ça a été receveur pour des années à venir pour les Blue Jays de Toronto. Mais je pense que du côté des Blue Jays, on va bouger. Du côté des Yankees également, il y a des équipes qui vont bouger, qui n'ont pas le choix, là. Les Texans ont été bâtis avec de bonnes transactions. On n'a qu'à penser à Corey Seager et à Marcus Semien. Ces deux gars-là, ça s'est révélé de très bonnes transactions pour le directeur général des Rangers du
Semien, ça, c'est un ancien des Blue Jays, si je ne me trompe pas, là.
Marcus Semien, ben oui.
C'est un ancien des Blue Jays.
C'est lui qui a prévu le plus de coups sûrs cette année dans la Ligue américaine. Alors, les Blue Jays l'ont laissé partir. Puis là, ben ils ont l'air un peu fous, les Blue Jays, ce matin.
Pas mal.
Avec puis Semien, non seulement Semien, puis de l'autre côté, il y avait Lourdes Goriel et Gabriel Romano, trois joueurs qui appartiennent aux Blue Jays.
Et trois joueurs qui ont bien fait dans les séries de championnat, là.
Trois joueurs qui ont bien fait, puis autant en attaque que défensivement parlant. Receveur, écoute, c'est un receveur d'avenir qui est voué à un brillant avenir. Et Goriel est quand même très bien défendu également au champ, puis il a frappé la balle quand même assez solidement. Et Marcus Semien, ben lui, son réveil a été tardif. Ça a été dans les deux derniers matchs. Il a remplacé Adolis Garcia, qui a connu toute une série, connu une saison extraordinaire, des séries extraordinaires également pour Adolis Garcia.
On a appris aujourd'hui, Michel Bureau, que Nelson Cruz, des Padres de San Diego, a décidé d'accrocher ses crampons. Lui qui avait 464 coups de circuit, alors il ne pourra pas se rendre à 500, là.
Non, il ne pourra pas se rendre à 500, malheureux. Hein. Il ne restait quand même pas beaucoup de millages. Ça fait penser un peu à Ovechkin pour ce qui est du nombre de buts au hockey. Lui, il va peut-être patienter pour battre le record, finalement, du plus grand nombre de buts dans l'histoire de la Ligue nationale. Mais dans le cas de Nelson Cruz, ben, à un moment donné, tu sais, surtout des receveurs, mais surtout des botcheurs également, là, les jambes, le physique ne tient plus le coup à un moment donné, puis ils sont obligés de tourner la page. Mais n'empêche que ça a été un grand joueur qui a réussi de belles choses tout au long de sa carrière.
Dans tes chroniques cet hiver, ben cet automne, cet été, tu nous as parlé souvent des Braves d'Atlanta. Puis oui, il y avait une bonne équipe, mais dans les séries, ils ont crocheté. Et là, aujourd'hui, les Braves ont décidé de signer prolongation de contrat de 26 millions au lanceur droitier Joe Jimenez. Ça veut dire que Atlanta va y surveiller encore les prochaines années. C'est un bon lanceur, lui.
Non seulement c'est un bon lanceur, Michel, comme tu le soulignes si bien, mais en plus, les Braves d'Atlanta, puis chapeau à Alex Antopoulos, hein, l'ancien DG des Blue Jays de Toronto, le Montréalais, qui a fait ses classes avec les Expos. Il a eu la brillante idée de signer des joueurs à long terme, et les Braves vont être compétitifs pour des années à venir. Alors, ça va être très intéressant, tout comme les Diamondbacks sont jeunes également. Hein. On a vu de bons jeunes joueurs du côté des Diamondbacks également. Alors, c'est intelligent d'arriver puis de signer maintenant quand c'est un joueur recul. Tu vois qu'il y a du talent comme Evan Carter qui m'a impressionné du côté des Rangers du Texas. Tu sais, ce genre de joueur-là, tu signes ça pour 10 ans puis tu ne te trompes pas.
Bon, là, ça va être la saison tranquille pour le baseball. Si jamais il se produit quelque chose, on va voir s'il y a des congédiements ou des signatures ou des échanges. On va se reparler la semaine prochaine. Mais de toute façon, Michel Bureau, on a encore bien des années de baseball derrière nous.
Absolument, les gars. Puis honnêtement, ça a été un immense plaisir de partager ma passion du baseball avec vous et vos auditeurs.
Puis on verra. Peut-être que la semaine prochaine, on va se jaser. On va voir s'il y a des congédiements de directeur général ou de coach. Si l'information est importante dans le baseball, on se repart la semaine prochaine. Sinon, ben, cet hiver, il va se passer des choses. Fait qu'on va se reparler bientôt, Michel.
Ben, merci beaucoup, les gars, encore une fois. Merci également à CKJ pour ce vote de confiance.
Merci, Michel. Merci, Michel. Ce soir, merci, le Canadien contre les Diamondbacks de l'Arizona n'a toujours pas de confirmation pour le gardien de but partant.
Et quand il y a des rumeurs qui sortent comme ça, ça veut dire que...
Ça va être lui, ça va être Primo.
Ça va être Kaden Primo qui va obtenir un deuxième départ.
OK. Cassez-vous à tête pour les prochaines games avec Primo. Football, les Steelers, ce soir, on va en parler tantôt avec... Avec Jean-François Maltais, il y a eu des échanges au football cette semaine, beaucoup de blessures encore. Ça, c'est le problème du football. Les saisons sont longues. Il y a moins de matchs qu'au baseball et au hockey, mais il y a tellement de joueurs blessés. On va discuter de tout ça tantôt. Ce soir, les Titans du Tennessee contre les Steelers de Pittsburgh. Et on rappelle la victoire des Saguenay-Chicoutimi hier 5-1 devant Blainville-Boisbriand. Les marqués au menu... Une seule partie en fin de semaine et elle est à la radio du 92.5 parce que le Palais des Sports sera libre des joueurs verts en fin de semaine.
Oui, effectivement, il y a une seule rencontre pour les Marquis en fin de semaine et c'est sur la route demain soir du côté de Thetford contre l'Assurantia, comme tu mentionnes, la rencontre qui va être diffusée sur nos ondes.
Dans un petit moment, on va jaser de soccer avec Benoît Lavoie.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5, ma radio d'ici.
Pour un temps limité chez Chasse-et-Pêche Chicoutimi, profitez d'un rabais de 15 à 50% sur les habits de neige pour enfants FXR en magasin. Chasse-et-Pêche Chicoutimi, seul détaillant FXR au Saguenay.
Jean-Michel Côté du 92.5. À tous les passionnés de musique country, je vous invite tous les soirs de semaine pour Destination New Country. Vos succès, nouveautés, suggestions musicales et j'aurai la chance de jaser avec vos artistes préférés et en bonus, peut-être même quelques prestations musicales au rendez-vous. Sans oublier votre tatoune, le duel musical à tous les vendredis 21h. Le meilleur de la musique country au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est au 92.5 CKJ, ma radio d'ici. Du lundi au mercredi de 18h à 20h et le jeudi-vendredi de 18h à minuit. Destination New Country.
Ton auto est au bout de son kilométrage. Trop cher à réparer. Maintenant, tu sais où appeler. Pièces d'AutoShop. On peut même te remorquer. Tu veux t'en débarrasser? Tu ne veux pas le regretter. Pièces d'AutoShop pour le meilleur prix instantané.
Ce vendredi, 19h, foyer des loisirs d'Arvida, les élites de Jonquière reçoivent la meilleure équipe du M18, le Blizzard du séminaire Saint-François. Un match à ne pas manquer. On va encourager nos élites.
On parle de soccer. C'est l'heure du soccer le jeudi, 16h. On parle de soccer avec Benoît Lavoie, espacesoccer.com. Benoît Lavoie, bonjour.
Salut Michel et Dom.
Soccer Québec, puis nous on l'a confirmé dans le vestiaire dans les derniers jours. Et on va commencer avec le soccer provincial et régional. Il y a une grosse activité qui s'en vient à Saguenay au mois de juillet prochain. Peux-tu nous parler de la nature de ce championnat provincial?
Ben oui, c'est intéressant de voir la suite. C'est un peu une suite de l'an passé, parce que quand Soccer Québec sont venus à Alma pour la coupe qu'on a eue interrégionale, il faut savoir qu'ils ont été agréablement surpris de l'accueil, des terrains et tout ça. Et puis soudainement, cette année, il y a eu une autre demande avec l'association régionale. Il y a eu le club d'Alma au départ. Alma, on s'est aperçu qu'il n'était pas prêt à prendre le tournoi. Le Venturi a levé la main, on a dit go. Le Venturi a accepté le tournoi des sélections régionales 2024. Donc, 13-22 au 27 juillet l'année prochaine. C'est en catégorie U16 ou U15, en tout cas, si je me trompe. Là.
U16, quoi, U16, c'est...
Il va y avoir quelqu'un du Venturi qui va être là, je pense, la semaine prochaine là, pour en parler
oui,
plus
exact,
en profondeur. Sébastien Mazias.
Sébastien Mazias, oui, c'est ça.
Donc, c'est un bel événement. On parle de 18-19 régions, tant masculin que féminin, pas loin d'une quarantaine d'équipes. Si on dit une vingtaine de joueurs par équipe, on parle de 800 à 1000 joueurs. Donc, il y a déjà un comité qui est formé au sein du club Venturi. Je vais laisser Sébastien en dire plus. Il y a aussi, au niveau de l'association régionale, on a une implication, nous, de notre côté aussi, parce que ça doit être une association qui le demande, et là, le club, par la suite, va être là. Donc, ça va être un bel événement l'été prochain. C'est comme un tournoi entre les Jeux du Québec, si tu veux. Là. Les Jeux du Québec, il y en a eu cet été, il va y en avoir dans 2 ans. ça, c'est l'année entre les Jeux du Québec. C'est un genre de tournoi de classement pour après ça, les Jeux. Puis, comme je te dis, Sébastien va vous en parler. Ben, gars, je vois, j'arrive sur le site de cette compétition provinciale réservée aux jeunes de moins de 14 ans. Donc, on parle U14, OK? Pas loin de 700-800 joueurs de différentes associations régionales qui vont être là. Il va y avoir pas loin de 80 matchs sur les terrains à Saguenay. Donc, il va y avoir un rafraîchissement des terrains, j'imagine, amélioration pour être sûr de bien accueillir.
Ça, c'est un tournoi extérieur, là. On n'est pas à l'intérieur, on n'est pas dedans.
Non, c'est un tournoi extérieur. Okay. La dernière édition avait eu lieu en 2019 à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, ça va être très intéressant. Puis, comme je te dis, ben, je vais laisser Sébastien aller plus loin là, dans la discussion à ce niveau-là pour ce tournoi-là.
Soccer professionnel, Lionel Messi collectionne les ballons d'or, son huitième. Et là, il est encore actif en plus. Là.
Léo Messi, huitième ballon d'or. En même temps, c'est contesté. C'est très difficile, la planète foot. Écoute. Joueur de l'année, écoute, moi je suis un pro Messi, moi je suis bien content. Il y en a qui sont très déçus de voir Messi encore gagner un ballon d'or parce que c'est une année Coupe du Monde. La Coupe du Monde, souvent c'est priorisé. Quand on regarde, il y a des années que ça aurait pu être d'autres noms, mais écoute, c'est donné par une centaine de journalistes du monde entier. C'est sûr que quand le nom Messi est là puis qu'il y a une belle année, ben il y en a qui est favorisé un peu par la grandeur de Messi.
Mais s'il n'y avait pas été là, ça aurait été c'est qui le deuxième?
Ben écoute, c'est pas nécessairement à cause de la MLS, là. C'est la Coupe du Monde avec l'Argentine.
Oui, c'est surtout.
Puis il faut savoir qu'il a été joueur de la Coupe, hein?
En
2014, en 2018, quand la France a remporté, je voyais des commentaires des gens. Comment ça se fait que c'est pas Mbappé ou Griezmann qui l'a eu, la France avait gagné? Ben, c'est parce qu'il y avait un joueur qui jouait pour la Croatie, qui s'appelait Luka Modric, qui avait été élu, lui, joueur du tournoi. Puis c'est lui qui a eu le ballon d'or. Fait que c'est pas nécessairement le joueur de l'équipe gagnante qui va avoir le ballon d'or. Tu me poses la question, c'est qui était deuxième et troisième? Bon, en troisième position, c'est Mbappé qui a terminé troisième. Mbappé, ben, il a perdu en finale. Ouais. En club, il n'a pas gagné grand-chose avec le PSG, comme Messi non plus. Messi a gagné en MLS, mais c'est pas ça qu'on regarde beaucoup, même s'il a gagné la Leagues Cup. Il n'a pas amené non plus l'équipe en série. Le deuxième, c'est lui qui a été dans les litiges avec Messi. Erling Haaland, le Norvégien. Écoute, il y a une saison record avec le club de Manchester City en Angleterre. Il a tout gagné, il a tout raflé en Angleterre, mais il faut savoir qu'il n'est pas tout seul. Il y a des joueurs avec lui, Kevin De Bruyne, qui aurait peut-être pu être là aussi. De Bruyne a fini quatrième. Ça, c'est un Belge. Haaland, ce qui arrive, c'est qu'avec la Norvège, il n'y a pas une grande sélection. Fait qu'ils se sont pas
qualifiés. On n'entend pas parler souvent parce que là, ce nom-là...
Erling Haaland, là... dans mes ventes de chandail, je le mettrais troisième ou quatrième meilleur point là, pour l'instant.
À ce point-là.
C'est un grand blond de 6 pieds.
Tu es en train de me déniaiser, là, parce que c'est pas un nom.
Oui,
que...
Erling Haaland, full dans des vidéos. Là, okay. Les jeunes le connaissent. Les jeunes joueurs de soccer le connaissent. Ils le connaissent tous. Là, puis c'est, comme je te dis, c'est dans mon top 4 vendeurs là, de chandail de soccer. Les jeunes aiment beaucoup Erling Haaland. Et il a tout remporté en Angleterre, le championnat, la FA Cup, la League Cup, la Ligue des champions. Il a beaucoup de buts, sauf que en sélection, ben, la Norvège n'est pas un grand pays de soccer, mais il n'a pas marqué des grands buts. Quand on regarde en Ligue des champions, qui est le gros tournoi des clubs, ben, en finale, il n'a pas marqué. En demi-finale, il n'a pas marqué. Mais il a battu un record à 21-22 ans de la Première Ligue, qui est le gros championnat en Europe. Donc, il a tout battu. Il a terminé quand même premier marqueur de la Ligue des champions. Donc, c'est lui ou Messi. On va avoir le score vraiment en fin de semaine. La revue France Football va donner le classement officiel. Comment ça s'est terminé là au niveau des journalistes. C'est un journaliste qui donne 5 votes ou 3 votes et on en parlera plus. Mais juste pour rappeler, Michel, le Ballon d'or féminin a été gagné par l'Espagnol Altana Bomati, qui a remporté la Coupe du Monde chez les femmes en Espagne, juste en passant comme ça. Le trophée Gerd Müller, qui est le meilleur marqueur de la saison, c'est lui, Alan, qui a remporté ce tournoi-là. Le trophée Copa, ça, c'est le meilleur jeune qui joue pour le Real Madrid, Jude Bellingham. Ça, c'est un jeune à devenir, là, qui marque des buts à profusion aussi. C'est un jeune intéressant à regarder. Le club de l'année, Manchester City, hein, le club de Alan et de Bruyne, qui ont tout remporté. Le meilleur gardien, ça, c'est le trophée Yashin. Il a gagné par Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, rappelons-nous, là, qui a fait toutes sortes de visages, toutes sortes de faces là, en finale. Et le club féminin de l'année sur la planète, le FC Barcelone qui ont remporté la Ligue des champions et leur championnat. Donc, ça fait un tour du Ballon d'or. C'est pas juste le gars. Il y a les femmes aussi à considérer. Il y a aussi un autre titre qui a été donné à Vinicius Junior parce que lui, il a été traité de racisme un peu, puis il a fait des causes, là. Il a parlé contre le racisme un peu. Et on lui a remis un trophée, là, le trophée Socrates, qu'on appelle, là.
Dans les séries de la MLS, y a-t-il des surprises?
Ben, tout d'abord, la semaine passée, je vous l'avais dit, il y a eu des matchs de la 8e, 9e position. Rappelons que le CF a terminé 10e avec la séance de tir au but d'une autre équipe là, qui a eu un tir de pénalité qui a éliminé le CF Montréal. Donc, on avait un match entre la 8e et la 9e position, un match de classement. Dans l'Est, c'était les Red Bulls de New York contre le Charlotte FC, une victoire des Red Bulls 5-2. Et dans l'Ouest, ça a été une victoire du Sporting Kansas City contre l'équipe de San Jose au tir au but. Donc, ces deux clubs-là se sont retrouvés maintenant à se qualifier pour tomber en quart de finale d'association dans les séries S et Ouest. Donc, on a tous un match de jouer. Pour la série quart de finale, c'est une nouvelle formule qu'on a adoptée de cette année en MLS. C'est une formule 2-3. Donc, toutes les équipes ont joué un match. Donc, dans l'Est, on a Cincinnati qui a gagné 3-0 contre le Red Bulls. On a Philadelphie Union 3-1 contre Révolution New England. On a Columbus Crew qui a gagné hier soir l'équipe à Wilfred Nancy 2-0 contre Atlanta. Et on a Orlando qui a gagné 1-0. Donc, ces quatre équipes-là mènent 1-0 dans l'Est. Il va y avoir le match retour en fin de semaine. Ça peut se terminer en 2. Si ça fait égalité, on va aller à un troisième match. Ils vont revenir à la maison. Dans l'Ouest, Kansas City a surpris Saint-Louis par une victoire de 4-1. C'est la surprise, je crois, là, présentement, d'un quart de finale. On a Dynamo Houston, victoire de 2-1 contre Salt Lake. On a FC Los Angeles avec le gardien Maxime Crépeau qui est dans les buts, qui a retrouvé sa place de gardien, qui a battu les Whitecaps de Vancouver 5-2, la seule équipe canadienne.
C'est la seule équipe canadienne de Vancouver, c'est ça, oui.
Qui nous reste en liste pour les séries. Et puis c'est surprenant parce que 5-2, ça, en tout cas, il n'y a pas de buts. Les buts ne sont pas comptés. Là. C'est le match qui se joue. Et Thunder Seattle, victoire de 2-0 contre Dallas. Donc ça va jouer en fin de semaine le match retour, le match numéro 2. Et s'il y a égalité, on s'en ira dans un troisième match. Après ça, on va tomber en demi-finale. Et là, ça va être juste un match. Le gagnant, un match et on passe tout droit. C'est une formule différente. Puis en même temps, Michel, je voulais juste te parler un peu des affluences de la saison 2023 dans la MLS. C'est Atlanta United qui a la meilleure moyenne au niveau de l'affluence. On parle de 47 000 personnes par match.
47 000?
Hey, du monde. Wow. Oh boy!
À Atlanta, 47 000 par match. Donc, c'est quand même toute une... Puis 47 000, c'est la moyenne. Le match qui a eu plus de monde à Atlanta, on parle de 71 000 personnes. Donc, c'est quand même très bon. Et quand on regarde, il y a eu un record de la MLS dans un match entre le Galaxy et le FC Los Angeles, les deux équipes de Los Angeles. Il y a eu 82 000 personnes dans le match entre les deux. Puis si on va voir le CF Montréal, okay, il y a 29 équipes dans la MLS. Le CF Montréal se retrouve avec la moyenne là, en 24e position, avec une affluence de 17 000. Même si on a eu des guichets pas mal pleins cette année, plusieurs fois à Montréal, on a une moyenne de 17 000. Il y a eu le match le plus de monde, c'était au Stade olympique, on a eu 23 000. Et le match qui a eu le moins de monde à Montréal cette année, de 13 000 personnes. On a réussi à combler ça au fil de la saison, mais tu vois, le CF est quand même en 24e position sur 29 là, dans l'affluence des...
Mais je trouve que les instances sont bonnes quand même, dans MLS.
Oui.
Ça me surprend.
Après ça, regarde Charlotte en deuxième place, on tombe à 36 000. Seattle, 32 000. Ça, c'est les moyennes, là. C'est Nashville, 28 000. Cincinnati, 25 000. Toronto, FC Toronto, 25 000 personnes. Si on va voir la troisième équipe canadienne, Vancouver, eux sont en 27e place, mais avec une moyenne de 16 000 personnes quand même.
Hey, tu parles des assistances. Hier, il y avait un match amical féminin à Halifax, entre le Canada et le Brésil. Il y avait au-dessus de 6 000 personnes, ce qui est bon pour un match amical féminin, là.
À Halifax.
À Halifax, ben oui.
C'était plein. Attention, moi, je suis allé au match samedi dernier, Toronto, à Montréal. Il n'y avait pas 6 000, il y avait 20 000.
Impressionnant.
On a eu pour un match amical féminin, mais il faut quand même mentionner que c'est le dernier tour de piste de Christine Sinclair.
Aussi.
Sa carrière.
C'est sa tournée d'adieu, elle-là. Là.
Ah, moi, Michel, les dames, j'étais super content de voir comment est-ce que, au moins, les Québécois, les gens de Montréal ont répondu à cet appel en peu de temps de remplir le stade, 20 000, pour saluer cette joueuse-là qui est la recordman mondiale du nombre de buts
On l'a fait jouer en fin de match. Bon, ça n'a pas été un grand, grand match. Le Canada s'est fait dominer en deuxième demi là, on a, contre le Brésil. Il y avait une belle équipe. Puis il y avait, de l'autre côté, au Brésil, il y a une joueuse comme Sinclair un peu. Moins de buts, là, mais elle a une carrière aussi attrayante avec le Brésil. Elle s'appelle Marta. Elle est en fin de carrière aussi. C'est toute une joueuse aussi. Puis j'étais surpris à la fin. Je me suis tenu pas loin. J'avais amené un chandail à faire signer par Sinclair, mais c'était trop long. Il y avait trop de monde. Elle faisait le tour du terrain. Mais les joueuses canadiennes, les signatures d'autographes, les joueuses brésiliennes, c'était vraiment un beau happening là, au niveau féminin. Puis c'est le fun de voir le soccer féminin qui a pris de l'ampleur. Puis même chez nous à Montréal, là, c'était beau à voir. Puis il faut savoir qu'en novembre, Christine Sinclair va aller jouer dans son coin de pays, dans le coin de Vancouver, dans l'Ouest canadien. Il y a deux autres matchs amicaux contre l'Australie. Donc, ça fait une belle tournée pour Sinclair. Puis, je pense qu'elle le mérite là, avec toute la carrière qu'elle a eue, avec sa médaille d'or olympique, qu'on va se rappeler. Là.
Benoît Lavoie, merci beaucoup. On se reparle dans 7 jours.
Oui, Michel. Puis, juste un dernier coup. Il y a une Coupe du monde des U17 qui va commencer bientôt. Le Canada, on a 3 Québécois de l'Académie de l'Impact. Le garçon Amaro Biello, Alexandre Biello, Gaël de Montigny, Étienne Godin. C'est 3 petits gars qui s'en vont en Inde pour la compétition U17, donc ça, le vendredi 10 novembre, 13 novembre et 16 novembre, on en reparlera. Le Canada va jouer 3 matchs. Donc, ces jeunes-là, là, c'est un beau happening qui s'en vient, là, U17 masculin au niveau mondial.
T'es vraiment bien informé. Merci de nous communiquer toutes ces nouvelles.
Salut les gars, merci beaucoup.
Au revoir, Benoît Lavoie. Le Canadien ce soir contre les Diamondbacks de l'Arizona. Il y a un match de football également ce soir. On en reparle dans un instant.
Et on vient de confirmer Jake Allen devant le filet ce soir. Ça vient d'être confirmé.
OK, bonne nouvelle. Ça veut dire que Primo, là, il sèche.
Oui.
Alors, on ne peut pas le laisser sécher, là. Qu'on le passe. Qu'on l'envoie au ballottage. Puis, s'il n'est pas réclamé, bien, à Laval. Alors, bonne nouvelle. Je craignais que ce soit pour une victoire ou pour une défaite. Une victoire, on aurait été encore plus mêlés dans le ménage à 3. Et une défaite, je te dis, je la ressortais au mois d'avril. S'il avait manqué 2 points aux Canadiens, je ressortais la game d'asseoir. Mais là, on va pas le ressortir. C'est Jake Allen qui est devant le filet.
Arrêt de jeu. Oh! Retour dans le vestiaire dans quelques minutes.
Puisque la mort fait partie de la vie, pourquoi ne pas en parler?
Engagement dans sa communauté.
Alain Girard, directeur général.
En 2018, la coopérative décidait de s'engager financièrement auprès de la Fondation Campagne des 500 jours pour un don de 25 000 $, montant qui viendra en aide aux enfants démunis de Chicoutimi. Depuis 20 ans, la coopérative a remis sous forme de dons et commandites plus de 350 000 $ à des organismes du milieu.
L'Alliance funéraire du Royaume, présent à chaque instant.
Le 92.5, ma radio d'ici, la seule station au Saguenay-Lac-Saint-Jean à vous offrir un animateur la nuit. Voici Alain Plante.
Chers auditeurs du 92.5, c'est un plaisir d'animer pour une 25e saison sur votre radio d'ici Cargo Nuit 100% live, du mardi au vendredi, de minuit à 6h. Cette saison encore, je vous offre le meilleur de la musique la nuit. Les mardis des comptes avec les palmarès Hot AC et New Country franco et anglo. Les mercredis et jeudis, le meilleur des succès pop et rock. Et les vendredis Métrotech avec les plus gros succès années 70, 80, 90. Bien sûr, de 5h à 6h, Cargo au réveil avec le meilleur New Country, météo, sport, une des journaux et des sites web. Et bien sûr, le 418-82-9250 est là pour me rejoindre pour demande spéciale, salutations ou pour toute information pendant la nuit. Cargo Nuit 100% live sur ma radio d'ici, le 92.5.
Salut, Pape!
Hey, salut, Dom!
Non, ça sent bien bizarre chez vous.
Tu trouves?
Ça sent le gaz.
Ah, ça doit être ma fournaise à l'huile. Trop habitué, je la sens plus.
Tu fonctionnes encore à l'huile. Couton, t'es-tu vidé au Moyen-Âge, toi? Fais-moi changer ça, drette là.
Faites remplacer votre fournaise à l'huile pour une fournaise électrique.
Plus sécuritaire, plus économique.
Les entreprises Martin Boucher s'occupent de tout.
Subvention disponible. Informez-vous.
547-6710. 547-6710.
Suivez-nous sur Facebook.
On parle football. Football. Avec Jean-François Maltais.
Monsieur Maltais, bon jeudi.
Bonjour.
Les Raiders de Vegas n'ont pas niaisé avec le ballon. Ils ont décidé de faire le grand ménage après 3 victoires, mais 5 défaites.
Oui, tu sais, même, je te dirais, les victoires n'étaient pas tellement éclatantes non plus. On n'a pas eu nécessairement cette duel la plus difficile du côté des Raiders. Et là, la pente, là, était vraiment vers le bas avec cette équipe-là. On a beaucoup de problèmes à l'attaque et on sait que Josh McDaniels, l'entraîneur-chef, est l'ancien coordonnateur offensif des Patriots, donc de longue date. C'est un gars qui a une grosse réputation comme étant un génie offensif, mais ça ne paraissait pas du tout. Même l'année passée, c'était pas très impressionnant non plus, mais là, cette année, ça allait vraiment pas bien. Le système était archaïque. On ne savait pas nécessairement de quel côté s'en aller. Et Jimmy Garoppolo, qu'on est allé chercher comme carrière, suite au départ de Derek Carr, ça n'a pas été glorieux là, du côté de Jimmy Garoppolo cette année.
Selon toi, y a-t-il d'autres corps arrière, des coachs, des directeurs généraux qui sont en danger?
Oui, il y en a. Il y en a comme assurément. J'ai parlé la semaine passée de Brandon Staley. Là, c'est sûr que sa victoire va faire du bien du côté des Chargers de Los Angeles parce que il faut toujours regarder du côté des équipes qui n'ont pas les débuts de saison espérés. Mais là, on est rendu, je dirais qu'on n'est plus en début de saison, on est rendu plutôt en milieu de saison. Alors, c'en était un. Maintenant, est-ce que ça s'est replacé? Je pense que oui. Du côté également de Ron Rivera, des Commanders de Washington, on a un nouveau propriétaire également avec les Commanders. On a décidé de laisser notre chance à Ron Rivera. Mais là, encore une fois, après un début de saison quand même pas mauvais, là, ça va de moins en moins bien du côté des Commanders. De plus en plus de rumeurs comme de quoi que Ron Rivera, là, tu sais, peut-être dans le pire des cas, va peut-être se rendre à la fin de la saison, puis ça va se terminer là normalement, à moins d'un revirement de situation majeur. Alors, ce seraient les deux noms que je verrais vite comme ça. Les autres qui sont vraiment dans des situations où est-ce qu'on est dans les moins bons rangs là, au classement, souvent, c'est des équipes en reconstruction, des nouveaux entraîneurs aussi. Alors, je pense qu'on va être un petit peu plus patient dans les autres cas.
Bon, tu as mentionné un bon début de saison pour cette équipe-là, les 49ers de San Francisco. Les autres ont collé 5 victoires en partant, mais là, 3 défaites. Là, je ne sais pas si la panique est installée à San Francisco, mais on a décidé de faire l'acquisition de l'ailier défensif Chase Young, un bon move?
Oui. Oui, je pense que oui, parce que, curieusement, cette défensive-là des 49ers, qui est une des défensives, là, tu sais, sur papier, qu'on s'attendait à ce que ça soit même la meilleure de la NFL cette année, c'est pas ce qu'on voit sur le terrain, curieusement. Je pense que, justement, l'arrivée de Chase Young, qui va être maintenant combiné à son ancien coéquipier Nick Bosa. Les deux ont été choisis au deuxième rang au total en provenance de Ohio State, l'Université Ohio State. Mais Chase Young, il ne faut pas nécessairement non plus s'attendre à des miracles parce que c'est un gars qui a été beaucoup, beaucoup hypothéqué par les blessures. C'est sûr qu'un choix de deuxième au total comme ça qui quitte une organisation, on ne lui a pas donné de prolongation de contrat du côté justement des Commanders. On préfère s'en départir d'avoir un choix de troisième ronde. Ça nous donne quand même des indications que ce gars-là n'a pas fait le travail qu'on s'attendait. Bon, oui, en raison des blessures, mais aussi en raison peut-être d'un jeu, on s'attendait à beaucoup plus de sa part. Et parlant des 49ers, écoute, on dirait que ça fait quasiment 6 mois, cette victoire-là, qu'on avait eue, souvenons-nous, dans cette victoire contre les Cowboys il y a quelques semaines. Mais là, avec ces 3 défaites-là, on a l'impression que ça fait 6 mois. Là, rien ne va plus nécessairement. Écoute, je pense pas qu'on va paniquer du côté des 49ers, mais ce qu'on voit surtout aussi de Brock Purdy est très inquiétant actuellement. Puis on n'a pas vraiment de solution de rechange. Il va falloir que ça se replace rapidement.
J'ai hâte de voir le rendement des Vikings dans les prochaines parties parce que là, Justin Jefferson est absent pour encore 2 semaines. Et là, on vient de perdre Kirk Cousins. Mais probablement que sa saison est terminée. Ils vont se retrouver où, les Vikings, en carrière numéro 1?
Écoute, Michel, je pense que poser la question, c'est y répondre, parce que les Vikings se maintenaient, ils ont réussi à se ramener à 500 avec une fiche de 4-4, avec un Kirk Cousins qui jouait possiblement le meilleur football de sa carrière. Tu le dis en plus, bon, Justin Jefferson n'est pas là, il pense qu'il va revenir prochainement, mais là, sans Kirk Cousins, je pense qu'on n'a aucune chance du côté, malheureusement, des Vikings de rattraper les Lions de Détroit qui vont très, très bien. Donc, c'est vraiment triste, là, cette blessure-là. Tu sais, un gars comme Kirk Cousins, on a appris à le connaître. Beaucoup de gens ont écouté la série Quarterback à Netflix qui mettait en vedette Patrick Mahomes et Kirk Cousins également, Marcus Mariota. Mais on a appris, je pense, à connaître l'humain. Je pense que tout le monde a aimé ce qu'ils ont vu dans ce documentaire-là qui avait sorti l'été passé. Et avec le rendement qu'ils donnent, se déchirer comme ça le tendon d'Achille comme Aaron Rodgers, c'est vraiment, vraiment une mauvaise nouvelle pour tous les amateurs de football. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment dommage pour Kirk Cousins et les Vikings.
Le fait que Patrick Mahomes est ennuyé par un virus, est-ce que ça a empêché les Chiefs de ramasser une victoire contre les Broncos de Denver?
Bien, c'est sûr que ça n'a sûrement pas aidé, ça c'est certain. Mais les Chiefs, je pense qu'ils finalement ont perdu un match qui tu sais... Je pense que depuis le début de l'année, souvent, on a réussi à aller chercher des victoires en toute fin de match qu'on n'aurait peut-être pas dû aller chercher. On a été bon dans certains autres matchs aussi. Mais là, je pense qu'on a vraiment subi la leçon cette fois-ci par les Broncos. Peut-être que les Chiefs n'ont peut-être pas pris les Broncos au sérieux, même si c'est un rival de division. Mais c'est toujours difficile, Michel, d'aller jouer à Denver dans l'altitude. Même si les Broncos n'ont pas une bonne équipe cette année, ben là, je pense qu'on a replacé un petit peu le bateau là, suite à cette défaite par quasiment 50 points contre les Dolphins. On se rappelle le match de 70 points. Là, je pense que les Broncos ont resserré leur défensive et c'est un sérieux avertissement pour les Chiefs. Je m'attends quand même à ce que ce soit mieux cette semaine. Bon, Mahomes s'est assurément remis de son virus. Mais c'est quand même une mise en garde. Je pense que la conférence américaine, il y a beaucoup de bonnes équipes. Alors, ça va être à surveiller là, d'ici la fin de la saison.
Avant de parler de la joute de ce soir et de celle de dimanche, les Cowboys de Dallas avec Dak Prescott, 4 passes de toucher contre les Rams. Les ouais. Cowboys, il était en vie dimanche.
Ah oui, oui. Écoute, les Cowboys, ça, c'est encourageant pour les fans des Cowboys, par contre. Parce que on a quand même une bonne fiche, on a un bon début de saison en général, mais Dak Prescott n'a pas donné le jeu qu'on s'attendait de lui, là, comme il l'a donné dans les saisons précédentes. Mais là, semble trouver son rythme. Mais la semaine passée, ça a été de toute beauté de le voir, lui, et son en duo avec son receveur étoile, CeeDee Lamb, qui a connu tout un match également la semaine dernière avec 12 attrapés. Il a réussi 3 touchés. C'était extraordinaire de les voir, ces deux-là. Alors, je pense que ça, c'est vraiment bon signe pour les fans des Cowboys. Et on va en avoir besoin parce qu'on a tout un test. On va en parler dans quelques instants. Mais les Cowboys, je pense que eux là, veulent vraiment passer le message. Je le disais tantôt, ils avaient subi une défaite, une grosse défaite. On s'est vraiment fait dominer par les 49ers il y a quelques semaines. Mais là, les rôles sont inversés. C'est pour ça qu'il faut toujours être patient quand on surveille la NFL. Des fois, il y a des débuts de saison surprenants, mais on le dit jamais assez, là, faut attendre parce qu'il se passe toutes sortes de choses. Des équipes sont en baisse, des équipes sont en hausse là, au fur et à mesure.
Ce soir, les Steelers contre les Titans?
Oui. Oui, intéressant. Intéressant comme match quand même ce soir parce que les Steelers, c'est un petit peu à l'image des Chiefs. On a été chercher des victoires cette année qu'on n'aurait peut-être pas dû aller chercher. Mais bon, on les a gagnés ces matchs-là. Mais la semaine passée, ça n'a vraiment pas bien été pour les Steelers. En plus, le carrière Kenny Pickett, qui a été blessé la semaine passée, mais devrait être à son poste quand même ce soir, donc face aux Titans. Et je voudrais qu'on surveille là, du côté des amateurs ce soir, et moi-même, je vais le regarder davantage parce que la semaine passée, j'ai pas trop surveillé ce match-là, mais le jeune Will Levis, que tout le monde voyait au départ, choisi dans le top 10, je dirais, au repêchage l'année passée, cet été, pardon, il a dégringolé pour des raisons un petit peu obscures, puis finalement, les Titans l'ont repêché au début de la deuxième ronde. Mais là, suite à la blessure de Ryan Tannehill, on a donné l'opportunité à Will Levis de commencer le match la semaine passée. Il a réussi 4 passes de toucher. Alors, c'est vraiment un gars qui est à surveiller. J'ai hâte de voir là, dans une courte semaine comme ça à Pittsburgh. Je pense vous donner quand même l'avantage aux Steelers ce soir, mais j'ai bien hâte de voir ce duel-là entre Levis et Pickett. Ça promet d'être intéressant.
Bon, il nous reste 5 minutes pour cibler 5-6 parties de football dimanche en début d'après-midi. On surveille qui?
Ben, écoute, là, je pense qu'on a une affiche extraordinaire en fin de semaine. Autant que la semaine passée, il n'y avait pas tellement de bons matchs. On en a plusieurs excellents cette semaine. Et ça commence, Michel, très tôt, à 9h30 le matin, en direct de Francfort cette fois-ci. Donc, on n'est plus en Angleterre, mais on est bien en Allemagne. Donc, au stade de Francfort, ce sont les Dolphins de Miami qui s'en vont affronter les Chiefs de Kansas City. Écoute, j'ai pas besoin d'en dire vraiment plus dans ce duel-là. La grosse attaque des Dolphins menée par Tua Tagovailoa. Et imaginez Tyreek Hill, le receveur, qui va enfin affronter son ancienne équipe des Chiefs. Il a déjà 1000 verges de gain en 8 matchs, imaginez. C'est une saison phénoménale pour Tyreek Hill actuellement. Et comment va-t-il se débrouiller contre son ancienne équipe? Ben, j'ai bien hâte de voir ça, mais quel duel à prévoir entre Patrick Mahomes et Tua Tagovailoa. Donc, je vous suggère à tout le monde de commencer votre journée de football dès le matin à 9h30. Ça va être extraordinaire. Si on s'en va ensuite dans la case de 13h, eh bien, il y a un match à surveiller là, en majeure partie. C'est celui entre les Seahawks de Seattle qui s'en vont visiter les Ravens de Baltimore. Les Ravens qui, commencent à jouer vraiment du bon football. On a 6 victoires, 2 défaites. On avait eu certains problèmes avec nos receveurs qui ont échappé des ballons plus tôt là, en saison. Je pense que la situation se régularise. Lamar Jackson joue de l'excellent football. L'attaque au sol fonctionne très bien avec Gus Edwards. Et là, on reçoit les Seahawks qui, mine de rien, Michel, les Seahawks ont maintenant devancé les 49ers au premier rang de leur division. Oh. Et on a un trio de receveurs extraordinaires, la recrue Jackson Smith et Jigba qui va de mieux en mieux, jumelé évidemment à Tyler Lockett et DK Metcalf, le carrière Geno Smith. Je pense qu'on va voir un excellent match dans la case de 13h.
À part ça?
Par la suite. Oui, par la suite. À 16h, eh bien, le match à surveiller, je parlais des Cowboys tantôt, on s'en va à Philadelphie pour affronter les Eagles. Cette grande rivalité Cowboys-Eagles, eh bien, écoute, je pense que c'est les deux meilleures équipes actuellement de la conférence nationale. Ces équipes-là s'affrontent toujours 2 fois par saison parce que c'est dans la même division. Mais là, on va avoir tout un duel. C'est vraiment un match extraordinaire à se mettre sous la dent entre les Cowboys de Dak Prescott et les Eagles de Jalen Hurts et leur fameuse formation là, qu'on appelle le touche-push. Lorsqu'il manque seulement une verge, on a une formation qui marche à tous les coups. C'est vraiment particulier à voir cette équipe des Eagles qui a toute une ligne offensive. Donc, c'est tout un duel. Et on conclut ça dimanche soir avec un autre excellent match. C'est les Bills de Buffalo qui s'en vont face aux Bengals de Cincinnati. On en parlait la semaine passée, là, les Bengals, là, ils ont vraiment confirmé là, leur retour dans la course avec une autre bonne performance la semaine passée. Quoi de mieux qu'un duel entre Josh Allen et Joe Burrow, une reprise des matchs, du match éliminatoire de la saison dernière remporté par les Bengals, on s'en souvient, à Buffalo. Eh bien, là, il faut donner encore une fois avantage aux Bengals, je pense, sur papier dans ce match-là, parce qu'ils sont à domicile et que les Bills ne jouent pas nécessairement du très, très bon football dernièrement. Mais je pense que ça promet quand même là, d'être extraordinaire comme match. Donc, toute une affiche pour toute la journée de dimanche.
T'es pas mal fin, Jean-François. Bon souper.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Merci.
Pendant que vous allez préparer le souper, puis il y en a qui commencent le 5 à 7, je vous invite à écouter le retour avec Dominique Bolduc et Éric Lavoie. Publicité gratuite, les gars, ce soir, programme sportif, Dominique?
Oui, bien, le Canadien est en action en soirée face aux Coyotes de l'Arizona. Confirmé, c'est Jake Allen qui sera devant le filet.
Je n'ai rien à dire sur le choix du gardien de but.
Excellent.
Je vous souhaite une agréable soirée, mesdames, messieurs, et on se retrouve demain au milieu de l'après-midi, 15h30.
On ferme le vestiaire. De retour demain, 15h30.